J'ai vraiment eu à cœur de terminer le message dimanche en vous montrant que on a réellement les uns et les autres notre part à accomplir. Et je vous ai montré différents exemples dans la parole où le Seigneur a, dans le pire moment, le moment où humainement parlant, c'était pas le bon moment de demander ça à quelqu'un, le Seigneur a demandé un engagement, un investissement, un pas de foi, un pas d'obéissance. Il a demandé quelque chose à quelqu'un au moment où ça l'arrangeait le moins, où humainement parlant, c'était pas logique de demander ça à ce moment-là. Et j'ai terminé dans la liste comme ça, ce qui était sur mon cœur. J'avais mis quelques exemples, alors qu'il y en a des dizaines dans la parole. Et puis, j'ai mis Jean chapitre 11, j'ai mis « Il fallait rouler la pierre avant que Lazare ne sorte ». Puis ça m'a travaillé. Je me suis dit, ce texte est tellement profond et tellement riche, il y a tellement de choses à dire. Je pense qu'on va en parler mardi soir. Comme ça, on est encore un peu dans la lignée de dimanche. Mais on va voir des aspects pratiques sans répéter ce qu'on a dit dimanche. Est-ce que vous voulez bien ouvrir vos Bibles avec moi, s'il vous plaît, dans Jean chapitre 11 ? Et on va en sortir des applications pratiques pour nos cœurs ce soir, pour nos vies. On va voir ce que le Seigneur attend de nous, ce que le Dieu de la résurrection attend de chacun de nous. Et quelles sont ces pierres que nous pouvons rouler, ces pierres que nous pouvons enlever pour faciliter l'œuvre de résurrection du Seigneur. Alors, Jean chapitre 11, c'est un merveilleux chapitre. Je vais essayer de ne pas tout lire, quoi qu'en même temps c'est difficile. Je vais vous dire les versets au fur et à mesure, mais en définitive, on va presque tout lire. On prendra peut-être un peu plus de temps dans la parole, bien sûr, on aura du temps pour la prière tout à l'heure. Mais je veux vraiment prendre le temps avec vous de me pencher sur ce merveilleux chapitre. Il y a tellement d'applications pratiques, j'en ai sélectionné que trois pour ce soir. Jean chapitre 11, vous êtes avec moi ? Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marthe et de Marie. Verset 3. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus: « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit: « Cette maladie n'est pas à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Pourtant, Jésus aimait Marthe et sa sœur Marie et Lazare. Mais lorsqu'il eut appris que Lazare était malade, il resta encore 2 jours dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples, c'est-à-dire 2 jours après: « Maintenant, retournons en Judée. » Les disciples lui dirent: « Maître, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider et maintenant tu veux retourner en Judée. » Verset 11. Après ces paroles, Jésus leur dit: « Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. » Les disciples lui dirent: « Mais Seigneur, s'il dort, alors il sera guéri. » Verset 13. Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement: « Lazare est mort, mais à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allons vers lui. » Verset 17. Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Verset 20. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus: « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit: « Ton frère ressuscitera. » « Et je sais, lui dit-elle, je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Mais Jésus lui dit: « Je suis, c'est moi, ego et mi, Dieu, la résurrection. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand bien même il serait mort. Et quiconque vit et croit qu'en moi ne mourra jamais. » Est-ce que tu crois cela? Elle lui dit: « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. » Ayant ainsi parlé, il s'en alla. Puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit: « Le Maître est ici et il te demande. Dès que Marie eut entendu ces paroles, elle se leva promptement et alla vers Jésus. Verset 32, lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus, quand elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Seigneur, si tu avais été là, ça ne se serait pas passé comme ça. » Jésus la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient là pour la consoler, frémit en son esprit, il fut tout ému. Verset 35, Jésus pleura. Et quelques-uns d'entre eux, des Juifs, dirent, « Lui qui a ouvert les yeux des aveugles, ne pouvait-il pas faire aussi en sorte que cet homme ne meure pas ?» Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, « Ôtez la pierre !» Marthe lui dit, « Seigneur, il sent déjà, il y a 4 jours qu'il est là. » Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Ils ôtèrent donc la pierre. Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. C'est fait, tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et le mort sortit. Les pieds, les mains liés de bandes, le visage enveloppé d'un linge, Jésus leur dit, « Déliez-le, laissez-le aller. Amen. » Je comprends pas s'il y a des gens qui s'ennuient en lisant la Bible. C'est pas possible. On peut pas s'ennuyer quand on lit la Bible. Je veux insister vraiment, bien aimé, sur le fait que il a fallu que Marthe, pas elle toute seule, mais elle a donné son aval, c'était elle la responsable de famille, elle a donné son aval, il a fallu que Marthe, les Juifs qui étaient là, il a fallu enlever la pierre avant que le miracle n'ait lieu. Cette pierre, vous le savez, c'était une pierre, c'était dans une grotte et il y avait une rigole devant. C'était une pierre qui était lourde et qui était pesante et on ne pouvait pas déplacer ces pierres comme ça. C'était vraiment quelque chose de conséquent. Mais cette pierre lourde, pesante, elle empêchait le mort de sortir. Elle empêchait l'œuvre de résurrection que Jésus voulait accomplir. Mais c'est Jésus qui a ressuscité Lazare, mais ce n'est pas Jésus qui a roulé la pierre. Ça, c'est la preuve qu'on lui faisait, qu'on lui a fait, même si ça a été difficile, ça a été un chemin dans le cœur de Marthe, ça a été la preuve qu'on a fait une confiance aveugle à Jésus. Pas un seul instant, Jésus n'a été clair sur ce qu'il voulait faire, il n'a pas dit qu'il allait le ressusciter. Quand il a parlé de la résurrection, elle a compris qu'il parlait de la résurrection du dernier jour. C'est la preuve ici que la foi est active, la foi est obéissante. La foi est participative. La foi est une, comme dit Hébreux 11, une démonstration. Elle a démontré qu'elle croyait sérieusement ce que Jésus disait et elle l'a démontré comment ? En disant, ok, on va rouler la pierre. Alors que humainement parlant, c'était pas logique du tout. Et on a vu dimanche, et je le redis, c'est ça le fil conducteur, que Dieu veut que nous soyons des acteurs, que nous soyons des participants de ces miracles. Frères et sœurs, nous ne sommes pas spectateurs avec Jésus, nous sommes acteurs de ces miracles. Je vous ai dit dimanche, l'attentisme, la passivité, ça tue les promesses et ça tue l'œuvre de Dieu. Vous vous rendez compte, imaginez 2 secondes. Si Marthe n'avait pas roulé, enfin, pas fait rouler, si elle n'avait pas accepté, qu'on roule la pierre, à votre avis. Ben, j'ai l'impression qu'on y serait encore. Hein. Ici, frères et sœurs, ce sur quoi je veux attirer votre attention, le texte est clair, il faut juste creuser un peu. La plus grosse pierre ici qu'il fallait rouler n'était pas matérielle. La plus grosse pierre n'était pas celle qui bouchait l'entrée du tombeau de Lazare. La plus grosse pierre, et pour même être plus précis, moi je vois dans ce texte, je partage avec vous ce soir, trois pierres spirituelles que le Seigneur nous demande d'enlever, de rouler, d'enlever de nos cœurs pour que le Dieu de résurrection puisse faire son œuvre en nous et briser, comme on l'a chanté, le pouvoir de la mort et puis ressusciter ce qui est mort en nous. Trois pierres dans nos cœurs que nous devons ôter, mais que ni Jésus, ni aucun ange, ni le pasteur, personne ne pourra enlever à ta place. La première qui ressort fortement dans ce récit, la première pierre bien-aimée, c'est la pierre de l'incompréhension. Ou aussi, si vous voulez, la pierre de la déception. Jésus ici est confronté à l'incompréhension générale. Tout d'abord, ça commence avec ses disciples. Verset 8, les disciples lui dirent, « Maître, il n'y a pas longtemps, les Juifs voulaient te lapider en Judée. Lazare était mort. Tu as dit, rien du tout d'ailleurs, on n'y va pas, tu n'as pas bougé. Et maintenant, ça fait 2 jours, et maintenant tu dis, eh ben, allons-y en Judée. » Et un peu plus loin, on n'a pas lu ce verset, Thomas dit, « Bon, ben, puisque c'est comme ça. » Allons-y aussi afin de mourir aussi avec lui. Thomas, c'était le bout en train de l'équipe. Il avait toujours un petit trait pas drôle du tout pour bien casser le moral de tout le monde. Mais il n'y a pas de chrétien comme ça, ça n'existe pas. Personne ne nous casse le moral à nous. L'incompréhension des disciples, ils ne comprennent pas la logique de Jésus. Seigneur, il y a une logique dans ce que tu fais. Mais nous, ça ne nous arrive pas de nous demander s'il y a une logique dans ce que Dieu fait. Pourquoi vous faites ? Bon, on est pareil. Hein. Ils ont bien du mal à comprendre son timing, sa logique, son timing, sa méthode, ses façons de faire. Les chemins, regardez bien dans les évangiles, les disciples sont souvent, pas en opposition, mais en incompréhension face aux chemins par lesquels le Seigneur va les faire passer, ce qu'il va leur demander. Verset 13. Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent, ils n'ont pas compris l'image, qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Les disciples sont en décalage, une fois de plus, avec la pensée de Jésus. Ils ne comprennent pas sa façon de penser, ils ne comprennent pas ses paroles. Et très souvent, quand vous lisez les évangiles, on s'aperçoit à quel point, mais nous, ça ne peut pas nous arriver, ça ne les concerne que eux, bien sûr, à quel point ils sont en décalage avec la pensée de Jésus. Et à quel point ils ont du mal à saisir ce qu'il dit, ce qu'il veut faire, quand et comment il veut le faire. Et puis il y a la déception, l'incompréhension aussi, quand Jésus arrive, il est confronté à la déception, à l'incompréhension de Marthe, de Marie, et aussi des Juifs qui sont là. Marthe au verset 21, Marie au verset 32, « Seigneur, si tu avais été ici. » En d'autres termes, « Seigneur, pourquoi tu as permis que ça dans ma vie ? Pourquoi tu as permis que cette situation familiale ? Seigneur, pourquoi tu as permis que cette situation corporelle ? Seigneur, pourquoi tu as permis que cette situation ? Pourquoi tu as permis que ? Tu étais où, Seigneur ? Pourquoi n'as-tu rien fait ? Quand les Juifs disent, verset 37, « Lui qui a ouvert les yeux des aveugles, ne pouvait-il pas faire en sorte que cet homme ne meure pas ? » Il n'y a pas de moquerie à ce moment-là. Il n'y a pas de propos inconvenant, ce n'est pas malveillant. Les Juifs à ce moment-là, parce que plusieurs vont croire en lui, ils ne sont pas dans des mauvaises dispositions à ce moment-là, ils sont réellement dans une logique. Il y a une réelle incompréhension. « Seigneur, ça fait quand même quelques mois, quelques années, on entend parler de toi partout, en Judée, en Israël, jusqu'à Tyr et Sidon, tu passes par là, les récits fusent. Seigneur, de tout ce que tu fais dans ce territoire depuis des mois et des années, avec tout ce que tu as fait, on sait, Seigneur, que tu n'avais même pas besoin de te déplacer. Jean chapitre 4, tu as guéri l'officier du roi à distance. » va, ton fils vit. Et pendant qu'il était en chemin, on est venu lui dire, et au fait, ton fils vit. Amen, il n'avait même pas besoin de se déplacer. Seigneur, pourquoi n'as-tu pas dit un seul mot? Pourquoi tu as laissé cette situation se dégrader? Et voyez, bien aimé, il y a des moments dans nos vies où, comme Marthe et Marie, comme les disciples, les juifs, on s'est trouvé dans des situations où le Seigneur n'est pas intervenu comme on était en droit légitimement de l'attendre. Verset 3, il n'y avait pas de problème. Je sais que nous, on aime bien toujours se dire, ouais, mais est-ce que j'ai bien prié? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Avec Dieu, vous savez, tout est grâce. Hein. Le Seigneur n'est pas impressionné par la longueur ou l'éloquence de nos prières. Avec Dieu, tout est grâce. Et là, en réalité, verset 3, la prière est bel et bien fondée sur la grâce suffisante de Jésus. Ils n'ont pas dit, oui, Lazare, quand même, il a construit l'église, tu pourrais... Non, tu pourrais faire quelque chose pour lui, Seigneur. Non, ils ont dit, Seigneur, celui que tu aimes est malade. La prière était simple, profonde, fondée sur la grâce toute suffisante de Dieu, du Seigneur Jésus. Donc, ce n'est pas un problème de cœur, de motivation, d'ego ou de méritocratie. Ce n'est pas non plus un problème de foi. On aime bien toujours nous trouver des problèmes partout à la fois. Oh, mais tu sais, hey, toi, tu n'es pas guéri. Mais moi, ma femme, elle a été guérie. Donc, quand tu auras la foi comme moi, hein, voilà. C'est peut-être que tu n'as pas la foi. Hein. Puis, hey, peut-être que tu as péché aussi. Hein. D'accord. Oh là là, oh là là là, faut pas commencer à rentrer là-dedans. Hein. On aime bien essayer de trouver des choses partout comme ça. Et on prie, il n'y a pas de problème avec la prière, il n'y a pas de problème avec la foi. Seigneur, elle le croit sincèrement. Je sais que si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Donc je croyais dans ta grâce et je croyais dans ta capacité. Eh bien là, c'est impeccable. La prière, elle est nickel. Même si elle dure 5 secondes, elle est impeccable. Et ça suffit pour avoir un exaucement. Il y en a qui ont eu des exaucements pour moins que ça. La femme à la perte de sang, elle n'a même pas ouvert la bouche. Elle a dit, si je touche le bord de son vêtement, je serai guéri. Elle n'a même pas parlé. Jésus était dedans, elle l'a touché. Elle a été guérie, sauvée, tout, le même jour. Il n'y a pas de problème avec la prière. Il n'y a pas de problème avec la foi. Elles y croyaient sincèrement. Et pourtant, bien aimées, elles ont prié. Elles ont attendu, comme nous parfois, dans des situations diverses de vie, dans nos circonstances. Vous les connaissez, vous en avez tous eu, vous en aurez aussi encore. On a demandé. Ce qu'on a demandé n'était pas inconvenant. C'était légitime. Le temps passe. Et rien ne se passe. Et non seulement rien ne se passe, mais plus je prie, plus la situation, elle dégringole. Ça vous parle? On est d'accord, on est tous dans la même, ça va, dans la même foi et dans le, ok, les mêmes défis. Verset 6, Jésus n'a rien fait. Jésus n'a même pas bougé. Pourtant, il est bien dit, verset 5, pourtant Jésus aimait, parce qu'il y a toujours des gens qui disent, ah oui, mais le Seigneur, peut-être qu'il est trop occupé, peut-être que je ne dois pas l'embêter avec mes problèmes, peut-être que le Seigneur, au bout d'un moment, peut-être... Non, Jésus aimait Marthe, Jésus aimait Marie, Jésus aimait Lazare. Il n'y a pas de prière, il n'y a pas de problème du côté de Jésus, il n'y a pas de problème du côté de Marthe et Marie. Alors pourquoi? Pourquoi? Pourquoi est une mauvaise question? Il y a beaucoup de pourquoi et de comment auxquels le Seigneur ne répond pas. La question, ce n'est pas pourquoi, en un seul mot, la raison. La question, c'est pour quoi, en deux mots. Pour quel but? Dans quel objectif? Pour quoi? Ô Seigneur Jésus, où est-ce que tu veux en venir avec cette inaction qui me désespère? Où est-ce que tu veux en venir? Pour quoi? Seigneur, quel est ton but? Quel est ton objectif? Où est-ce que tu veux en venir avec tout ça? L'incompréhension, la déception, les pourquoi, les comment. Bien-aimés sont des pierres lourdes, pesantes, qui alourdissent nos cœurs et qui empêchent le Dieu de la résurrection de faire ce qu'il a à faire en nous et dans nos circonstances. Et on aime bien chercher des comment et des pourquoi. Regardez les disciples. Un peu avant, vous relirez Jean chapitre 9. Il y a cet aveugle de naissance. Les disciples sont avec Jésus, ils passent. Ils arrivent dans un village et ils voient cet aveugle de naissance. Puis les disciples qui ont des raisonnements parfois très biscornus, ils demandent à Jésus, « Seigneur, est-ce que c'est ses parents ou est-ce que c'est lui qui a péché pour qu'il soit né aveugle ?» Vous avez vu la stupidité de la question ? Alors le Seigneur va faire payer à cet homme le fait que ses parents soient nés pécheurs. On est tous nés dans le péché. Puis comment le Seigneur pourrait faire payer à cet homme d'avoir péché ? Il est né aveugle, il n'a quand même pas pu pécher avant d'être né. C'est quoi ces réflexions de disciples ? Qui c'est qui a péché pour qu'il soit né aveugle ? C'est lui ou ses parents ? Et Jésus répond. Qu'est-ce qu'il répond, le Seigneur ? Allez, à vous. On a le droit d'être interactif. Hein. Qu'est-ce qu'il répond, le Seigneur ? Afin, presque, bien. Afin que, concrètement, Jésus dit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Pourquoi, Seigneur ? C'est pas du pourquoi, c'est du pour quoi ? Afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Parce que Dieu est le Dieu de l'impossible. Et là, le Seigneur nous montre aussi clairement dans le texte, verset 4, Jésus dit bien, cette maladie n'est pas, c'est-à-dire elle n'appartient pas à la mort, c'est-à-dire que c'est pas la mort qui va marquer le point, c'est pas la mort qui va remporter la victoire sur cette situation, c'est afin que le Fils de Dieu soit glorifié. Jésus n'a pas dit qu'il allait le guérir tout de suite. La preuve, il ne l'a pas fait. Et bien souvent, des chrétiens, quand ils ont lu dans leur lecture personnelle « Cette maladie n'est pas à la mort », ils se sont dit « Ah, ça y est, c'est bon. Allez, demain, je suis guéri. Alléluia. Puis si je ne suis pas guéri, ben, c'est parce que je n'avais pas la foi. » Non, frères et sœurs, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est afin que le Fils de Dieu soit glorifié. Cette maladie n'est pas à la mort, c'est-à-dire que la mort ne gagnera pas dans cette histoire, elle n'aura pas le dernier mot. Jésus, la résurrection et la vie, dit « c'est afin que je, moi, sois glorifié par ça ». Une guérison, ça glorifie Jésus. Mais pour lui, une résurrection, c'était... Pourquoi ? Parce que Dieu a son plan. Son plan, c'est premièrement, bien-aimé, de se glorifier. Allez, je vais vous dire un truc dur. Malgré tout l'amour que Dieu a pour vous, pour moi, tout ce qu'il se plaît à faire, à bénir, à exaucer, à sauver, à combler, à guérir, à pourvoir, à donner, avec générosité, avec abondance même, tout ce que le Seigneur veut bénir, combler, exaucer, il le fait. Oui, il le fait parce qu'il m'aime, oui, il le fait pour mon bien. Mais la première des raisons, avant toute chose, Dieu opère toute chose pour sa seule et unique gloire. Pourquoi ? C'est afin que le Fils de Dieu soit glorifié. Marthe et Marie avaient des besoins. Nous avons tous eu, avons ou aurons des besoins. Je vais vous dire un truc dur. Hein. Première réunion de prière, je sais que je ne fais pas les bonnes nouvelles. Hein. Dieu n'est pas aux ordres de mes besoins. Il m'aime, il veut y répondre, mais Dieu n'est pas aux ordres de mes besoins. Dieu n'est pas à ma disposition. Dieu ne me doit rien. Je suis à sa
disposition. Jésus agit pour mon bien parce qu'il m'aime. Et au-delà de ce que je peux penser ou imaginer, j'enlève rien de ce que j'ai dit dimanche. Mais avant toute chose, pour sa gloire, moi je lui soumets mes besoins et ma responsabilité ensuite, c'est d'être attentif à ce qu'il veut. Pour quoi ? Pour aller où ? Et cette pierre de déception et d'incompréhension, elle enfermait Marthe, elle enfermait Marie, elle enfermait les disciples. C'était un miracle, un obstacle, au miracle que Jésus voulait opérer dans leur cœur. Et je sais, frères et sœurs, si vous pensez que le nouveau pasteur, il va tout expliquer et qu'il va tout régler, ah ben je vous dis, avant la fin de l'année, vous allez être tous déçus, hein. Vraiment. Même moi, je suis dans ma Bible tous les jours. Avec Dieu, je ne comprends pas tout. Il y a des choses que je comprends que après les avoir vécues. Il y a des choses que je comprends que après. Il y a des choses que je comprends au fur et à mesure. Mais si tu ne comprends pas tout, mon bien-aimé, tu peux comprendre que Dieu a son plan. Est-ce que, en d'autres termes, tu peux comprendre que ce que tu as demandé, ce pour quoi tu pries n'est pas, c'est bien, c'est pas illégitime? Mais est-ce que tu peux comprendre que Dieu, lui, il a un autre plan? Il est Dieu. Je lui soumets. Mais Dieu reste Dieu aussi sur mes besoins. Il a un autre plan. Et en vérité, je veux rétablir l'équilibre. Parce que voyez, bien-aimé, souvent, on ne le dit pas, mais la réalité est pratique. Ça transpire, hein. Ah, je comprends pas. On va pas dire, ah, le Seigneur m'a déçu. Bien sûr que non. Mais à l'intérieur du cœur, il y a des moments où on est déçu. On n'a pas eu ce qu'on avait demandé légitimement. Mais en vérité, bien aimé, Dieu ne déçoit jamais personne. Dieu ne déçoit pas. Le problème, c'est qu'on n'écoute pas. Le problème, c'est qu'on n'est pas en recherche, on n'est pas connecté à son plan, à ses objectifs. On n'est pas connecté à sa façon. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Ésaïe 55, mes voies, V-O-I-E-S, mes façons de faire ne sont pas les vôtres. Lazare, notre ami, dort. Non, je suis désolé, il ne dort pas, il est mort. Ça ne va pas s'arranger comme ça. Et en vérité, frères et sœurs, je vous l'ai dit dimanche, le but de la parole de Dieu, pourquoi Jésus dit ça? C'est une façon pour lui, c'est une image. C'est une façon de dire, mais le véritable problème de tout ce récit, c'est pas que Lazare soit mort. C'est plus facile pour moi de ressusciter un mort que pour vous de réveiller quelqu'un qui dort. Je peux vous dire, j'ai eu deux enfants adolescents, je sais la difficulté de réveiller un adolescent le matin. Quand il dort, ça peut être très dur. Et Jésus dit, mais c'est plus facile pour moi de ressusciter un mort que de ressusciter ton ado que quand il dort. La Bible me dit, me rappelle sans cesse, je vous l'ai dit dimanche, le but de la parole de Dieu, c'est de m'amener à penser comme Dieu pense, de raisonner comme il raisonne, de voir les choses, les situations, les gens, les problématiques, lui, moi, les frères, les sœurs, l'église, la famille, de voir comme lui il le voit, de penser comme il le pense, de le raisonner comme il le raisonne. Et en vérité, bien aimé, qu'est-ce qui se passe? Ici, Marthe et Marie, c'était légitime. Qu'est-ce qu'elles voulaient en résumé? Elles voulaient amener Dieu dans leur case, dans leur dimension. Et une fois, deux fois, trois fois, quatre fois dans ta vie, à différents domaines, tu as prié, tu as demandé, le Seigneur a agi. Amen, alléluia. Je peux même vous dire, avec Anne, on a même fait l'expérience. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prier, hein. Mais Dieu est tellement grand. Dieu avait à un certain moment besoin de nous montrer à quel point il allait prendre soin de nous. Un jour, je dis à Anne, je lui dis, tu sais chérie, on était en région parisienne, elle me dit, ah mais elle faisait des kilomètres interminables dans les bouchons, les machins. Je disais, chérie, tu sais, elle était directrice de centre de loisirs. Je lui dis, tu sais, chérie, peut-être qu'il faudrait simplement quand même qu'on commence à mettre ça en prière et puis que là où on est, t'es un travail. Je dis, franchement, chérie, il y a un centre de loisirs juste en face de la maison. Mais vraiment, quand je vous dis, vous traversez la route et là où il y a les parkings et les voitures, là, à la fin de notre parking, c'était le centre de loisirs. Et nous, on habitait là. Je dis, chérie, il va quand même falloir un jour qu'on prie pour ça. Elle me dit oui, on verra ça. 2 jours après, j'avais pas prié elle non plus, le téléphone sonne. Le maire de la ville où on habitait dit Madame Brion, mais je viens d'apprendre que vous êtes directrice de centre de loisirs. Moi, ça fait des mois que je cherche. S'il vous plaît, venez, il faut absolument, etc. Et la semaine suivante, elle commençait, elle travaillait juste en face de la maison. J'avais même pas ouvert la bouche. Puis à des moments, j'ai demandé, j'ai prié, j'ai persévéré. Mais je voulais amener Dieu. Et le Seigneur me dit, non, je t'ai exaucé. Maintenant, je vais donner une autre dimension à ta foi. Et c'est toi, maintenant, qui vas entrer dans mon plan. Tu vas entrer dans ma dimension. Tu vas entrer dans mon objectif. Tu vas entrer dans mon timing. La deuxième chose qui est très importante dans ce « pourquoi » après la gloire de Dieu, c'est la foi. La foi. Plus précieuse que l'or, plus précieuse que tout. La foi qui croit envers et malgré tout. La foi mature. La foi, verset 15, Jésus dit bien, « Afin que vous croyiez !» Les disciples devaient découvrir une autre facette de leur Seigneur. Amen. Vous dites amen des fois ici ? Ah ouais, ça va. Faut pas vous gêner avec moi, ça fait plaisir, hein, amen. Enfin, si vous n'êtes pas convaincu, le faites pas. Voilà. La foi qui est solide, la foi qui est mature, la foi qui est persévérante, la foi avec ses nombreuses facettes, la foi qui est débarrassée de toute peur, de toute inquiétude, de tout parasite. Vous savez pourquoi ? Vous avez remarqué dans l'Évangile, moi ça me façonne, c'est passionnant. Vous avez remarqué que Jésus n'a fait que des choses extraordinaires. On est d'accord. Trouvez-moi un endroit où Dieu dans sa parole, où Jésus dans les évangiles, peu importe, puisqu'il est Dieu, a fait 2 fois de la même façon. Vous regarderez bien. Jésus n'a jamais fait, alors qu'il n'a fait que des choses merveilleuses, il n'a jamais procédé 2 fois de la même façon. Il avait toujours une parole spécifique, une méthode spécifique. Un jour, il crache par terre, il fait de la boue, il la colle sur les yeux de l'aveugle. Ah, il l'a fait 1 fois, mais pas 2. Hein. Et il avait toujours un timing spécifique. Pourquoi ? Parce qu'il veut que je m'attache à qui il est, à lui, et pas à de la méthode. Alors, hier, le Seigneur a fait comme... Oui, ben merci Seigneur pour hier, mais je peux te garantir que demain, Dieu ne fera pas comme il a fait hier. Et là, merci Seigneur, la foi devient plus mature parce que verset 27, elle est fondée sur la nature de Jésus. Je crois que tu es le Christ. La foi est fondée sur la nature de Jésus. La foi, verset 22, est soumise à sa toute puissance et à sa souveraineté. Seigneur Jésus, je crois que peu importe ce que tu vas demander à Dieu, il te l'accordera. Ça, c'est de la foi. La foi, c'est pas croire ce qui m'arrange. C'est pas parce que je crois que Dieu peut faire, agir, exaucer, guérir, bénir, et que je l'ai vu par le passé. C'est pas parce que je crois que c'est possible que c'est de la foi. La foi, elle est soumise à son auteur. La foi, elle est obéissante. La foi, c'est pas seulement croire ce qui m'arrange, ce que j'ai envie. La foi, c'est de croire et de faire ce que Dieu dit. Et puis il y a 2 autres pierres. La première pierre qu'il fallait rouler, c'était la pierre de l'incompréhension et de la déception. Enlève ça. Il ne se passera rien si tu restes bloqué là-dessus. La deuxième et la troisième sont liées. La deuxième, je vais aller rapidement, c'est la pierre de la peur. La pierre du doute. Ôtez la pierre et s'il ne se passe rien ? Non, il ne va pas rien se passer, c'est Jésus qui te le demande. Et s'il ne se passe rien ? Vous savez, frère, moi j'ai assez souffert. Alors si c'est pour être encore déçu, ce n'est pas la peine. Puis en plus, vous savez, il faut être raisonnable. On fait avec. Finalement, c'est peut-être pas si grave. On fait avec. Partout où il y a une œuvre de foi, le doute vient. Et ce doute, cette peur, si on ne roule pas cette pierre du doute par la parole vivante, efficace, alors il y a une autre pierre qui est liée avec, c'est un engrenage, c'est la pierre de la résignation, l'abattement, le fatalisme, la raison. Nous, on n'est pas confrontés à un mort physique. Mais combien de fois dans nos situations de vie, bien-aimés, on s'est trouvé confronté à des situations où, humainement parlant, on pouvait dire « C'est mort. C'est mort. Il ne se passera plus rien. C'est fini. » Humainement parlant, j'ai plus rien à attendre. Et Marthe, après avoir dit deux fois, je crois que tu es le Christ, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, il te l'accordera. Marthe est rattrapée par cette pierre du doute, parce que là où tu as la foi, c'est normal, le doute vient frapper à ta porte. Et là, elle est rattrapée par le doute, par la raison. Jésus lui dit, c'est bien que tu crois maintenant, ôte la pierre. Seigneur, est-ce que quelqu'un t'a dit qu'il est mort ? Est-ce que quelqu'un t'a dit que c'était pas possible ? Est-ce que quelqu'un t'a expliqué que ça faisait 4 jours ? Et que l'état de décomposition est avancé, il sent déjà, etc. Et là, cette pierre lourde et pesante qui était due aux circonstances visibles, à l'impossibilité. Mes frères et sœurs, la foi n'est pas faite pour des situations possibles. La foi est faite pour des situations impossibles. Amen. Et Jésus, une fois de plus, va secourir Marthe par sa parole. Elle a ôté la pierre avant et le miracle a eu lieu. Est-ce que tu peux demander à Dieu, Seigneur, quel genre de pierre tu voudrais me voir rouler de mon cœur ? Est-ce qu'il y a quelque chose en moi qui fait obstacle à qui t'empêche de. Vous voulez bien qu'on se recueille ? On prie ensemble, s'il vous plaît ?